Bien, alors avant de vous laisser la parole pour un échange, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette étude de cas que Blandine vient de vous proposer et de répondre à deux questions. Quels sont les leviers, dans un premier temps, qui nous permettraient de penser que ce partenariat tel qu'il a été décliné chronologiquement à des points de réussite intéressants qui sont toujours à interroger, et puis de peut-être des interrogations qui un deuxième point donc qui met en question les limites de ce PRE par rapport à ce qui nous a été rapporté. Alors, c'est une proposition. Alors, quelques leviers, il me semble pouvoir relever d'abord qu'il y a eu un diagnostic partagé qui a mobilisé au départ des acteurs éducatifs, les personnels de l'école, le CMPP, le SMP, le RASED. Il y a aussi une équipe qui devient petit à petit, et peut-être qu'on a un petit peu minoré toutes les difficultés de la mise en place de ce partenariat, mais il y a une équipe qui va devenir solidaire et qui se mobilise autour d'un projet commun, non pas une juxtaposition d'individus. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, au cours de ce partenariat et de ce travail, de ce parcours, il y a peu à peu un partage des informations, un échange de différents points de vue. J'ai moi-même assisté à une réunion entre la référente de parcours, les directrices d'école et les professeurs des écoles. Ça m'a surpris, je dois dire, le degré de proximité, la relation de confiance qui s'est établie durant cette discussion où ils partageaient vraiment leur point de vue et croisaient leurs regards. Le quatrième point, c'est le fait que ce projet, il ait été clairement explicité, validé. Il s'agit clairement d'aider un parent en difficulté. On a surtout insisté sur l'approche psychologique. Mais il y a aussi une orientation scolaro-centrée qui est bien présente par rapport à ces deux enfants qui sont en difficulté d'apprentissage du fait de ce qu'elles traversent. Dans cette équipe, il me semble aussi qu'il y a une interlocutrice que le parent va bien identifier, la référente de parcours, qui va faire le lien entre la famille et les autres partenaires. J'ai entendu aussi qu'il y avait des compétences professionnelles complémentaires, alors peut-être parce que j'ai assisté à cette réunion de travail, entre d'une part les personnels enseignants et de l'autre part la référente de parcours. Et il y a une chose que j'ai remarquée, qui peut-être n'a pas été dite, c'est la capacité à ne pas précipiter les choses, à faire du sur-mesure, mais aussi à entendre que le parent n'est pas prêt, qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin d'écoute. Alors parfois les institutrices m'ont dit qu'elles ont été débordées à ce moment-là par l'émotion qui est arrivée, la colère, etc. Mais il me semble que ça, c'est un point fort pour tisser des liens. J'ai vu aussi une approche systémique, c'est-à-dire qu'on ne se polarise pas seulement sur des enfants, mais on prend en compte le système famille et le parent ici. Voilà les points, je dirais, que j'ai relevés. Alors, mes interrogations, il y en a plusieurs, je vous en propose quelques-unes. D'abord, il y a le statut, l'identité professionnelle du référent, et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour le coordonnateur. Sébastien Parot aurait souhaité être avec vous aujourd'hui, mais il était lui-même appelé à un séminaire, donc on s'est partagé comme on a pu. Et je pense que l'identité professionnelle du référent comme du coordonnateur est loin de faire d'être une évidence. C'est-à-dire, c'est pas un métier, c'est pas une profession à part entière. Ça ressemble plutôt à un rôle, voire à une fonction. Et je pense que ça n'est pas simple dans ce cas-là, avec ces caractéristiques floues, d'entrer dans un parcours et de le construire. Le deuxième point, c'est le nombre d'adultes qui gravitent autour de ces enfants. Alors là, c'est pas très prégnant parce que effectivement, on est dans le cas d'enfants jeunes qui sont en école élémentaire, mais moi je pense à ceux que je connais qui sont du collège, donc ils ont déjà tous les professeurs de leur classe et vont gravir autour encore nombre d'adultes. On a calculé dans un séminaire du CRDSU qui s'est tenu à Lyon au mois de septembre que un même jeune pouvait voir jusqu'à 17 adultes dans sa semaine. Est-ce que ça, c'est un obstacle à sa réussite? Est-ce que c'est un point limite? Alors, autre aspect, que signifie le terme de réussite éducative? Est-ce qu'il y a, je dirais, des différences et des points de rencontre avec ce que l'on entend par réussite scolaire? Moi, il me semble que ce terme revêt un aspect multiforme. Enfin, la place du parent, ça me permettra aussi de faire le lien avec Pierre Perrier qui va s'installer tout à l'heure pour prendre la parole. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une adhésion progressive. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des tensions aussi et qu'il y a des avancées, mais il y a aussi des points de recul. Le papa a fait des avancées, mais il n'était pas prêt pour voir le psychologue qui n'est pas de l'éducation nationale. Est-ce que c'est pour autant un acteur à part entière dans ce PRE? Est-ce qu'on peut parler de sujet ou est-ce qu'il reste plutôt un objet pris en charge sans pouvoir vraiment contrôler ce processus?
Quelques points de précision. D'abord, le rôle du coordo, puisque vous en avez parlé, et de la référente, en quoi il se distingue? Pour votre cas de Givor, hein, ça m'intéresse. D'une part, et vous n'avez pas parlé du conseil consultatif, vous savez, l'instance institutionnelle qui regroupe les partenaires, qui fait que ça donne quand même un périmètre plus ou moins important au dispositif selon que tel ou tel partenaire est engagé officiellement, si vous voulez.
Alors sur Givor, le coordinateur est aussi plus largement le coordinateur du projet éducatif local. Il est à 25% en fait coordinateur du programme de réussite éducative. Donc c'est vrai que par rapport à l'animation du partenariat, il a un rôle vraiment clé. C'est lui qui anime aussi bien le comité technique avec les directions de chaque institution partenaire que le comité de pilotage. Voilà, moi je garde l'animation du groupe pluridisciplinaire de suivi. Il n'assiste pas à ces rencontres, justement, du groupe pluridisciplinaire de suivi où on aborde les situations vraiment précisément. Moi, je lui fais un retour sur les parcours mis en place, mais de manière complètement anonyme. Il ne connaît pas les enfants. Voilà. Il connaît les parcours, mais il ne connaît pas les enfants, on va dire.
Juste pour repréciser aussi que ce qu'on a essayé de vous donner à voir, c'est vraiment un exemple concret, une étude de cas, non pas parce qu'elle serait emblématique de telle difficulté ou de telle réussite, mais c'est que ça illustre d'un autre point de vue un certain nombre de questions qu'on a traitées hier plus théoriquement, sur la question des cibles, des dispositifs, la question de l'individualisation, la question... Donc, on se gêne pas aussi pour élargir la thématique, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous entendez là résonne avec ce que vous avez entendu hier, met des points de tension, des points de complexité. Donc on peut être à la fois sur des précisions par rapport à des questions, mais aussi élargir sur ce qu'on vit soi dans ces difficultés, dans votre propre endroit, comment ça se passe, les PRE, quelles tensions, et puis comment ça résonne avec ce qu'on a entendu hier.
Oui, donc moi c'était juste pour faire état d'une expérience dont ça vient de démarrer sur deux collèges, les écoles de rattachement de ce collège sur Marseille. En fait, la première question, c'est la question des moyens. C'est-à-dire que nous, ça concerne, on va dire, 3000 élèves qui sont scolarisés. Il y a deux personnes à plein temps. Donc déjà, il y a le public qui est ciblé. C'est-à-dire que l'objectif affiché du PRE sur la zone, c'est notamment de prévenir les ruptures éducatives et les déscolarisations. Donc il y a tout un travail pour affiner quel public. La première rencontre, donc il y a eu des repérages qui ont été faits par les enseignants, essentiellement les enseignants du premier degré et par les assistantes sociales des collèges. La plupart des cas qui ont été donc repérés, ce sont des cas qui sont définis comme trop lourds pour être pris en charge par le PRE. Donc il y avait un problème de ciblage par rapport à ce qu'on disait hier sur différents dispositifs. Ensuite, il y a la question effectivement de la manière dont les enseignants sont impliqués dans ce dispositif. C'est-à-dire que nous n'avons pas deux instances différentes entre le comité technique et le comité de pilotage. Il n'y a qu'une instance où les enseignants ne sont pas invités. C'est le coordonnateur de zone, donc moi-même, qui participe. Ça fait donc un échelon supplémentaire. Et puis, ça renvoie aussi à la professionnalité des enseignants de RAR. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce travail de relation avec l'équipe de réussite éducative, pour le référent, nous étant un éducateur, donc ça demande du temps. Ce temps-là n'est pas un temps institutionnel. C'est toujours sur du temps libre. à savoir qu'avec l'aide personnalisée entre midi et deux et l'éloignement des collègues sur leur, par rapport à leur lieu d'habitat, ça favorise pas non plus cette relation-là. Donc si effectivement on considère que l'équipe de réussite éducative est un aspect, est un point important, comme les RASED d'ailleurs, hein, je veux dire, je ne le mets pas au même niveau, mais quel est le temps qu'on accorde aux enseignants pour pouvoir effectivement y participer et non pas que ça soit toujours sur du bénévolat, parce que je veux dire, les bonnes volontés, à un moment donné, ça s'épuise. Et puis aussi, je veux dire, c'est aussi la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire un enseignant, il est normalement formé pour enseigner et il n'est pas formé pour prendre en compte toutes ces dimensions-là, bien que ce soit. Enfin, je veux dire, on précise bien dans le PRE qu'on parle non pas d'élèves, mais qu'on parle d'enfants. Et nous, nous sommes formés, même si on dit que le système éducatif doit prendre, l'élève est au centre du système, etc. Ces questions-là, elles se posent quand même. Et pour notamment les jeunes enseignants qui arrivent dans ces zones-là, c'est pas des questions faciles à prendre en compte, qui ne sont pas interrogées. Donc peut-être qu'on pourrait effectivement aussi se pencher sur ces questions-là.
Je peux peut-être sur la question des moyens. Le dispositif de réussite éducative est doté de moyens. Sur Rhône-Alpes, vous allez bondir, mais c'est 100 millions d'euros par an. Hein, c'est énorme. Et d'ailleurs, ce qui a été reproché par les institutions de droit commun, je pense les CMP, ont bondi quand ils, alors qu'eux sont plutôt appauvris en moyens, alors que un nouveau dispositif arrivait avec des moyens considérables. Et ces moyens sont d'autant plus, faciles à utiliser que il est laissé à l'initiative des locales, hein, c'est-à-dire c'est bien les comités de pilotage qui décident des directions, mais sous les propositions des coordinateurs ou des équipes pluridisciplinaires. Donc je crois qu'en question de moyens, pour l'instant, ça risque de changer un petit peu parce qu'il y a aussi plus de territoires qui ont demandé à créer un dispositif. Donc il est probable que les moyens dans les trois ans qui vont venir en 2011, 2012, 2013 sur le risque peut-être de diminuer un peu. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on peut dire que ce dispositif a été doté de moyens importants.
Sur cette question des moyens toujours, puisque les PRE ont beaucoup de moyens, le problème c'est que les enseignants, eux, ce dont ils ont besoin c'est de temps et de formation, et les moyens du PRE ne permettent pas ça.
Oui, je voulais réagir par rapport aux deux dernières interventions. Ce qui me semble dans le PRE, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans ma commune, c'est qu'il réinterroge toutes les pratiques et toutes les institutions qui agissent sur un territoire. À Saint-Priest où je travaille, donc le PRE a connu beaucoup de dysfonctionnements au départ, et en fait parce qu'il a mis à jour tous les dysfonctionnements qui existaient sur la commune en termes de dispositifs éducatifs. Et je crois que ça réinterroge les politiques publiques éducatives sur localement, mais ça interroge aussi l'institution éducationnelle. Comment elle s'articule avec ce nouveau dispositif? Effectivement, comment les missions des personnels de l'éducation nationale, je pense aux directeurs, au réseau d'aide spécialisée et aux enseignants, comment on tient compte dans leur mission de cette articulation avec ce dispositif?
Si je permets. Il me semble que dans les différents sites que je peux connaître, un certain nombre. Alors c'est vrai que le problème que vous signalez concernant l'éducation nationale, enfin les enseignants, je veux dire, il est vrai aussi, la constitution des équipes pluridisciplinaires, elle est souvent difficile parce que on a des acteurs qui sont d'abord surchargés de travail, je pense aux travailleurs sociaux par exemple, mais je pense que les enseignants aussi, je veux dire, qui sont dans des logiques, des missions, je veux dire, qui sont formatées entre guillemets, hein, vous parliez tout à l'heure, l'élève et pour l'enfant, enfin je veux dire, hein, pour les enseignants, mais c'est pareil pour d'autres professionnels, ils ont chacun leur logique et leur mission, et c'est difficile. Il me semble que chaque professionnel ne peut pas évidemment laisser tomber les missions sur lesquelles il est, ni les manières forcément de travailler, parce qu'il y a des cadres, hein, c'est vrai aussi bien pour des travailleurs sociaux que pour des enseignants, hein, que ce soit l'école élémentaire ou le collège, c'est certain, mais il me semble par expérience qu'il est possible d'arriver à un partenariat qui aboutit à quelques évolutions, hein, sous réserve évidemment d'accepter de se déposséder aussi d'une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre tout seul, hein, mais et de la partager avec d'autres. Je pense par exemple, je peux prendre un exemple parce que outre mes fonctions, je suis aussi adjoint au maire dans une commune de la banlieue ici et chargé d'éducation, donc du dispositif EPRE. Et je vois par exemple avec le collège s'est retrouvé un trimestre, il y a eu 60 exclusions temporaires dans le trimestre, hein, voilà. Bon, donc ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout essayé avant. Et à un moment donné, il faut bien une sanction. Donc voilà. Mais ça aboutit à rien, ça sert à rien, parce que pendant les 3 jours d'exclusion, les gamins ils sont chez eux ou dans la rue ou ailleurs, et de toute façon les parents viennent nous dire qu'ils voulaient qu'on en fasse. Donc voilà. Donc on a réfléchi dans le cadre du dispositif avec le principal, son adjoint, et puis les responsables, le coordinateur et quelques partenaires locaux sur qu'est-ce qu'il était possible d'envisager pour prendre autrement la situation. Et donc il a été conçu sur ces 3 jours d'exclusion un module complètement à l'extérieur du collège, hein, et animé par des partenaires extérieurs sur la réflexion sur le sens, pourquoi le sens du travail scolaire déjà, puis de la sanction, pourquoi il y avait eu sanction, hein, avec différents partenaires locaux, associations d'aide aux victimes, rencontre avec la police, rencontre avec des créateurs d'entreprise, avec des professionnels, etc. Enfin, essayer de retrouver un peu du sens à ce qu'il. Et le résultat, c'est quand même que ces gamins, quand ils reviennent au collège, je veux dire, les deux tiers d'entre eux, je veux dire, ont changé de comportement. En tout cas, voient le collège autrement et le travail scolaire autrement. Alors, c'est pas des miracles, hein, mais en tout cas, en termes comportementaux, en termes, ça change. Alors, il y en a toujours un ou deux, évidemment, pour qui ça, c'est plus difficile. Mais alors, la difficulté avec le collège, c'était de dire, mais il faut que vous soyez présent le jour avec les parents et le jour de démarrage, et il faut qu'à la fin, dans la restitution et dans le retour au collège, vous soyez aussi au collège réaccueillant de ces enfants d'une manière forte, avec une présence physique, avec un véritable accueil, et que pendant le temps où ils sont pas là, je dis, il puisse y avoir une copie des cours, des choses qui ont été faites. Bon, alors les 2-3 premières séances, ça a été compliqué. Les cours n'avaient pas été préparés ou transmis. L'accueil, surtout la réintégration, c'était bien pour le départ, mais la réintégration, c'était très bancal. Voilà. Bon, au bout de 3 fois, ça s'est mis en place et maintenant ça fonctionne. Mais voilà, je crois que c'est ce partenariat qu'il faut arriver à mettre en place sans que ça épuise les gens, sans que ça leur prenne trop de temps, parce qu'effectivement le temps est compté. Mais voilà, c'est
à travers les interventions des uns et des autres, hein, est-ce que c'est à l'extérieur de l'établissement d'expliquer le sens du scolaire? Bon, on voit bien tout cela, le paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps, on se dit ben c'est super bien que ça existe, parce que ça fait sûrement du bien aux gamins qui sont mieux là qu'eux, etc. Et en même temps, ça interroge forcément l'institution dans sa capacité à le faire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire une petite anecdote. Moi, je connais une cour d'OSEP dans mon coin, qui est super dynamique, qui fait plein de choses, qui monte des tas de trucs avec des partenaires dans le cadre du PRE, sur son temps de travail. Puis après, elle vient expliquer aux enseignants, en disant « Ouais, on a monté ça, c'est super, vous allez vous y mettre et tout. » Et elle se fait blackboulé, malmené par les instits qui lui disent « T'es gentil, mais on a 2 millions de choses à faire, on n'a pas le temps. » Et elle en a, en tant que cordeau, elle en a une grande souffrance, parce que elle dit « Mais quand même, moi je me suis défoncé pour ces instits-là. Ils sont quand même pas très sympas, quoi, de me faire ça à moi. » Et en même temps, on voit bien que la logique que vous posez, hein, la logique d'état institutionnel, du sentiment de surcharge, du chacun sa logique, c'est-à-dire comment est-ce que quand vous dites le PRE, il est révélateur des dysfonctionnements de chacune des institutions, bon, ça, je crois que tout le monde l'a constaté. C'est-à-dire que le principal intérêt du PRE, c'est souvent que chacun se met à regarder avec un peu de distance son propre fonctionnement, en se disant, oh là, mais c'est vrai que ça, c'est dingue, on le prend pas en charge et ça non plus, etc. Dans le lieu où on est, hein, puisqu'on est dans un lieu où on est beaucoup avec des métiers intermédiaires, là, Donc nous, en tant que métier intermédiaire, à la fois qu'est-ce qu'on y peut et quelle latitude on peut avoir pour prendre en compte cette espèce de sentiment de surcharge des métiers qui fait que les gens se disent mais voilà, c'est pas dans mon, est-ce que c'est dans mon travail ce que tu me demandes ou est-ce que c'est des heures en plus pas payées?
Je vais rebondir, bien que je sache que le micro soit attendu, par rapport à ce que tu viens de dire, Gilbert. Donc, je connais sur l'Académie de Lyon un dispositif qui ressemble beaucoup à celui que tu décris. Et si je prends en compte la remarque qui a été faite, donc du temps de travail en plus qu'on demande aux enseignants, eh bien, dans ce cas-là, ce sont des professeurs qui vont effectivement, avec des travailleurs sociaux payés par le Conseil général au centre social, donc à l'extérieur du collège, prendre en charge des élèves exclus, mais c'est sur leur temps de travail, c'est-à-dire c'est inscrit dans leur emploi du temps, à telle heure, tel jour, pendant un an, il y a ce travail de partenariat autour des élèves exclus qui se fait. Voilà une autre réponse.
Alors, par rapport au dispositif que vous avez décrit, moi je suis très mal à l'aise, d'autant plus mal à l'aise que je participe exactement à la création d'un dispositif comme ça en ce moment. Donc, c'est pour vous dire que les choses ne sont pas simples. En fait, moi ça me questionne beaucoup d'être obligée d'exclure un élève pour lui expliquer ce qu'est l'école, en dehors de l'école, de faire comme s'il suffisait de lui redonner 3 copies pour qu'il réussisse à apprendre ce que les autres ont appris pendant le cours avec un enseignant. Je trouve que quand même par moment, nous, les enseignants, on sait plus très bien où on habite, quoi. Et les cordeaux aussi, puisque moi je suis cordeau de rare et que je suis en train de faire un truc comme ça en disant que ça me questionne. Donc tout n'est pas simple. Et en même temps, je sais bien que si on fait ça, c'est parce que il faut essayer d'apporter des réponses à des enseignants qui n'en peuvent plus, à des élèves qui n'en peuvent plus. La cohabitation n'est plus possible. Mais je crois que sur ce qu'on disait tout de suite, sur le fait que le PRE questionne les institutions, de mon point de vue, le PRE ne n'aide pas à questionner l'école. Il questionne tout le monde, mais pas l'école. Le PRE, il permet de donner bonne conscience et de continuer... Quelquefois, vous verrez votre truc, si vous ne le limitez pas, vous allez avoir 20 élèves la première année, puis 70 la deuxième. Hein. S'il y a un dispositif pour exclure, on va exclure encore plus. Attention.
Moi, je vous remercie d'abord de la présentation de votre situation, parce que on est en train de parler là de choses qui, d'après moi, sont secondaires, parfois, quand on parle du temps des enseignants. Alors, je suis provocateur là-dessus, mais parce que je crois que l'essentiel, il n'est pas là au départ. Il est sur l'interrogation même du sens de ce dispositif de réussite éducative. C'est-à-dire que là, on est en train de déjà parler de choses qui, sans interroger le sens même de cette politique-là. D'après moi, vous n'avez pas assez insisté sur la rupture que ça constitue, cette politique-là. Moi, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. À partir même de l'étude de cas hein, que vous avez présentée, sans être agressif par rapport à vous, je crois qu'il y a un risque, c'est de focaliser, entre autres, on l'a vu à travers votre témoignage, mais moi je l'ai vu dans mes situations professionnelles, le regard sur l'enfant et les parents. C'est-à-dire, de façon indirecte, c'est eux qui portent la responsabilité des difficultés. Et en plus, on parle de difficultés ou de fragilité de l'élève ou de la famille, mais on n'interroge plus les fragilités. Est-ce que ce sont des fragilités de l'élève ou des difficultés de l'élève, ou est-ce que parfois ce ne sont pas des fragilités ou des difficultés des institutions ou des lieux ou des situations qu'ils rencontrent, hein, par exemple de l'école. Exemple, quand vous avez parlé de l'histoire des sons, à un moment donné en CP, est-ce que ce sont des difficultés de l'élève ou est-ce que ce sont des difficultés de l'enseignante qui, dans ces situations, dans ces contraintes d'enseignement, n'arrive pas à apporter des réponses à cet élève? Hein, donc vous voyez, il y a déjà, d'après moi, là, des questions de fond qui se posent. D'autres remarques à côté. Quid, qu'est-ce qu'on fait de l'action sur les conditions de vie, hein, le chômage, le niveau de vie des gens, et ainsi de suite? Parce que, de fait, en faisant des politiques qui ciblent des individus, on ne s'attaque plus aux conditions d'existence et aux contraintes qui s'exercent même sur ces individus. Je ne dis pas que c'est une politique qu'on n'a pas à mener, mais le risque, je vous donne un autre exemple. Vous avez parlé des financements sur les PRE. Oui, il y a des financements extrêmement importants. Mais à côté de ça, sur un certain nombre de sites, par exemple, sur lesquels je suis amené à exercer, on voit des financements, des structures collectives, par exemple des centres sociaux, sur les centres de loisirs, sur les actions collectives, qui baissent considérablement. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, il y a trop d'argent sur certains sites, on n'arrive même pas à utiliser les crédits PRE, hein, et à côté de ça, les actions collectives, les situations collectives qui pouvaient être proposées pour les mêmes enfants sont en train de disparaître. On voit même des situations qui sont... on peut se poser la question. Vous avez parlé de vacataires. Moi, je parlerai parfois de travailleurs précaires. On voit des professionnels de centres sociaux qui sont en train de perdre parfois leur emploi et qui sont recrutés en tant que vacataires par les PRE, hein, pour mener, par exemple, des actions d'accompagnement scolaire. Donc, je crois que là, il y a vraiment des questions de fond qui se posent en termes de... Pour moi, c'est quasiment un changement de paradigme. Enfin, il y a un changement complet, là, d'analyse. Alors, peut-être qu'il est intéressant et pertinent sur certaines actions. Je partage votre avis sur le problème de la cohérence. Hein. C'est vrai qu'on a des soucis, hein, sur ces questions-là. Voilà, je veux pas... Si, un dernier point, je suis long, mais parfois, ça fait du bien. C'est sur la question aussi du diagnostic. Quand on parle de diagnostic partagé, je crois que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure, c'est bien parce qu'on a des professionnels qui se mettent ensemble et qui, à partir d'une situation donnée, alors là c'était un cas, ils en font une interprétation, une analyse, et puis ils ont des hypothèses explicatives. Hein. Est-ce que ce sont les bonnes ? Est-ce que ce sont les bonnes, parfois ? Enfin, moi, c'est une question que je me pose. Alors, on peut avoir un croisement des regards, mais avec des hypothèses qui sont complètement erronées. Exemple, on met en place un accompagnement scolaire, mais l'accompagnement scolaire, par exemple, il évacue pas la question, sur le fond, du rapport entre le travail qui se mène au sein de la classe et du travail hors la classe. Il résout pas cette question-là, il la travaille pas obligatoirement. Je peux vous donner un exemple concret, moi, que je vois actuellement dans un PRE, où il y a un croisement des regards et on a mis en place un accompagnement scolaire ciblé, très individualisé, pour des tout petits groupes de deux enfants, deux élèves. Hein, parce qu'ils sont enfants et élèves, ça ne résout pas la question.
Gilbert, tu veux répondre ? Et ce sera sans doute la dernière intervention parce qu'il est l'heure.
Oui, alors je crois que les questions que vous posez, hein, que ce soit les vôtres ou ça, je crois qu'effectivement, elles sont importantes parce que je crois que tous les dispositifs, si on n'a pas une distanciation critique de leur fonctionnement, de leur sens d'une part, de leur fonctionnement, évidemment on se fait vite piéger et on risque d'avoir des dérives très vite. Donc je pense qu'effectivement il faut garder cette question critique. Quand vous dites sur la question des financements, on déshabille Paul pour habiller Pierre, hein. Bon, ça c'est une réalité, ça a d'ailleurs été suffisamment reproché, je pense, effectivement par un certain nombre d'institutions. Il me semble que Si le dispositif a un sens, c'est bien autour quand même de se mettre autour d'une table pour pouvoir parler d'une situation et l'évoquer. Alors chacun vient avec ses représentations, avec ses logiques d'action, hein, on est bien d'accord là-dessus, et c'est bien d'ailleurs ce qui pose problème souvent dans les équipes de soutien quand elles arrivent à avoir un peu des représentants des diverses institutions, mais j'ai justement intéressant, je crois, la confrontation des représentations de chacun et de ses logiques d'action autour d'une situation, d'une même situation, sur la façon dont on la voit. Et on voit bien pour les sites qui ont monté des outils justement de diagnostic, et on voit bien entre ce que pensent les parents, entre ce que pense tel professionnel ou tel autre, et puis ce qui va en ressortir de l'analyse, on est parfois à des lustres. Des distances phénoménales, parce qu'effectivement la réflexion collective va faire tomber un certain nombre de préjugés, un certain nombre de représentations un peu toutes faites, hein, et va y mettre effectivement une hypothèse de travail, c'est-à-dire une situation avec ce sur quoi peut-être on peut agir pour faire évoluer la situation, hein. Mais ce travail, s'il y a un travail qui est intéressant, c'est sans doute celui-ci, c'est-à-dire obliger chacun à sortir de ses propres représentations, de ses propres logiques d'action. Je pense que c'est un des éléments. Alors sur le fond idéologique, hein, de l'individualisation, mais c'est vrai pour l'aide personnalisée, c'est vrai pour le PRE, c'est vrai pour des tas d'autres dispositifs. Aujourd'hui, la question de la place de l'individu, hein, et on ne voit plus que l'individu, on ne voit pas les causes, je veux dire, globales, sociales, où on n'agit pas, en tout cas, moins, d'une manière perceptible, sur les problèmes de fond. Bon, ça, là-dessus, je partagerai votre analyse. Mais voilà, mais le problème, c'est que quand on est enseignant, qu'on est devant des situations qui nous échappent, sur le devant lesquelles on est impuissant, moi je l'entends souvent de la part des enseignants, hein, on est impuissant, on a tout fait, on a tout essayé, au secours, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et les enseignants sont pas les seuls, je veux dire, on a les mêmes discours, les mêmes du côté de travailleurs sociaux, du côté d'animateurs, du côté de d'autres instances. Voilà, donc c'est vrai qu'on est, il me semble, dans des situations complexes au jour d'aujourd'hui, où aucune des institutions parfois n'a la recette entre guillemets, hein, ou en tout cas les solutions pour vraiment intervenir d'une façon efficace, enfin, en tout cas qui fasse évoluer les choses. Donc c'est voilà. Donc le PRE, c'est vrai, il est là, il essaye de mettre ensemble tout le monde autour d'une table. Après, je veux dire, suivant les sites, suivant les lieux, suivant les personnes, je veux dire qu'il constitue, suivant les gens qui l'animent. Bon, je veux dire, on a aussi des différences énormes d'un site à un autre. Hein. Voilà, c'est un peu la complexité, je pense, des enjeux éducatifs aujourd'hui, hein, d'une manière générale.